Merci. En effet, on va partir sur des personnages beaucoup moins polémiques, mais qui ont aussi c'est beaucoup plus difficile de susciter l'émotion, parce que la polémique permet aussi d'amener une certaine émotion que mes pauvres notaires du XIIe ou du XIIIe siècle auront peut-être du mal à faire naître. Donc on va rester dans le Midi. Gennaro, c'est un colloque très méridional, puisque hier nous étions entre Montpellier et Toulouse, tout à l'heure à Marseille, l'Odève. Et là, nous allons à Albi, mais je vais essentiellement vous parler du Languedoc et un petit peu de la Ligurie. Donc c'est quelques mots sur les archives départementales du Tarn, puisque vous n'êtes pas forcément, même si on est très connu, peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait. Donc les archives départementales du Tarn sont un petit service dans un petit département de 380 000 habitants. Donc nous sommes un service de 44 personnes avec 18 km d'archives, dont le plus ancien document remonte à 962 et le plus récent date d'hier. Donc voilà, nous avons, je ne reviendrai pas sur l'émission d'un service d'archives, mais nous avons développé depuis une dizaine d'années une politique assez dynamique de valorisation de nos fonds, valorisation à la fois des fonds eux-mêmes et valorisation de notre travail d'archiviste. Donc nous effectuons pas mal d'inventaires, d'instruments de recherche maintenant sous une forme électronique, et à chaque inventaire sorti, nous produisons une exposition pour valoriser à la fois les fonds et le travail d'archiviste. Généralement, les expositions que nous réalisons sont des expositions très locales par rapport au public, puisque notre public est un public départemental, et locales par rapport aux fonds conservés, puisque nous exposons l'histoire locale, qu'elle soit ancienne ou plus récente. Or, l'exposition dont je vais vous parler aujourd'hui est une exposition qui a une vocation qui avait une vocation internationale et qui allait bien au-delà des simples frontières du Tarn. Et surtout, c'était la première fois que nous réalisions une exposition d'une grande envergure scientifique. C'est-à-dire que nous avons décidé de faire un travail sur... nous sommes partis le point de départ de l'exposition, c'est assez classiquement... Le classement de nos fonds notariaux, qui sont des fonds riches, mais je vais y revenir. Et partant de là, progressivement, nous avons construit un projet scientifique ambitieux, avec qui embrassait toutes les missions du service d'archives. Donc, nous avons complété notre collecte, nous avons réalisé le classement et nous avons revu les conditions de conservation et de conditionnement de nos fonds. Et surtout, dans la valorisation, nous sommes allés au bout du bout scientifique où nous pouvions aller, c'est-à-dire une exposition qui faisait le point sur un aspect scientifique du problème et qui s'est terminée par un colloque en partenariat avec l'École nationale des chartes. Donc c'est cette aventure un peu extraordinaire qui a pris de la vitesse, un peu comme une petite boule de neige qu'on lance et qui se retrouve quasiment une avalanche à l'arrivée, dont je vais vous parler parce que ça n'a pas été simple. Ça a été exaltant, mais c'était très fatigant. Et donc, je ne reviendrai pas sur certains aspects dont vous a parlé Jacqueline tout à l'heure sur les nécessités de l'exposition. Mais je vais essayer de vous montrer très prosaïquement et en allant dans le détail matériel, puisque je m'adresse à pas mal de jeunes confrères, comment on arrive à construire, même dans un petit département, avec un budget contraint et des moyens... J'étais un peu effarée par ce que j'ai entendu hier sur le musée, les musées qu'on nous a présentés, parce que nous, c'est un monde totalement à part. Mais je vais essayer de vous présenter comment on arrive à faire quelque chose de construit et qui tienne la route avec des moyens, somme toute, assez restreints. Alors, le projet scientifique en lui-même. Je ne sais pas si vous connaissez forcément bien les fonds d'archives, peut-être que les archivistes les connaîtront. Les historiens de l'art connaissent les fonds d'archives notariaux, puisque c'est des notaires dont je vais vous parler, parce que c'est quand même une des sources principales, ou du moins privilégiées, de l'étude des artistes. Mais il faut savoir que dans le Midi de la France, ce sont vraiment des fonds particulièrement intéressants. Et précieux pour nous. Alors précieux non pas parce qu'on est dans on a de beaux documents qui sont, vous avez vu le registre de notaire tout à l'heure avec le nid de souris, donc il est amusant, c'est anecdotique, mais c'est pas beau. Hein, donc voilà. Donc les fonds de notaire, c'est pas forcément beau esthétiquement, mais c'est les seuls documents que l'on conserve, du moins pour les périodes du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, où on rentre dans l'intimité de la vie des gens. Or, dans le midi de la France, pays de droit écrit, le notariat commence très tôt, commence à partir de la fin du XIIe siècle, je vais vous en reparler, et du XIIIe siècle, et tout le monde va aller voir le notaire. Le notaire n'est pas le personnage réservé à l'aristocratie ou aux élites urbaines. Le petit paysan du coin qui veut vendre un bout de terrain va aller voir son notaire. Même au-delà, on va aller voir le notaire pour tout. On va voir le notaire parce qu'on veut louer son enclume à son voisin. On va voir son notaire parce qu'on veut louer, sa vaisselle pour le mariage de sa fille. On va voir le notaire parce qu'on demande à un voisin d'aller chercher 3 livres qu'on a oubliés dans la ville d'à côté. On va voir, le notaire va servir de greffier des communautés, c'est-à-dire que les consulats qui se mettent en place au Moyen-Âge, le premier personnel administratif du consulat, ça va être le notaire, parce qu'il sait écrire, qu'il sait mettre en forme des actes. Or, s'il n'y avait pas ces notaires-là, on n'aurait pas cette richesse des archives méridionales dans les moindres petites communes. C'est-à-dire que vous allez dans une commune de 200 habitants, vous avez des compois du XIVe, du XVe siècle, vous avez des délibérations des consulaires du XVe, XVIe siècle, ce que vous n'avez pas forcément dans le nord de la France. Donc, pour les archivistes du Midi, les fonds notariaux sont particulièrement importants. Or, aux archives du Tarn, nous avons des fonds notariaux qui remontent, les registres remontent au XIIIe siècle, et nous avons 1,7 km d'archives notariales. Si vous allez en Ille-et-Vilaine, qui est un département nettement plus gros que le Tarn, ça commence début XVIe siècle, et vous avez 1 km d'archives notariales. C'est pour vous montrer la disparité. Donc, ces fonds d'archives sont pour nous importants en volume, par le contenu, et parce que ce sont aussi les fonds qui sont les plus consultés. C'est quasiment presque 50% des fonds consultés, étant donné que maintenant nous avons mis beaucoup de choses en ligne, ce sont 50% grosso modo des fonds consultés sont les archives notariales. Donc, elles sont à peu près classées, mais quand on rentre dans le détail, on s'est rendu compte que le classement ne valait pas la peine et qu'il fallait le reprendre quasiment à zéro, ce que nous avons commencé à faire à partir des années 2005-2006. Donc vous parliez de l'exposition sur le Caravage dont le projet avait commencé dès 2007, je crois. Nous, c'est pareil, c'est un projet qui a commencé depuis très longtemps et qui est devenu un projet de service. C'est-à-dire que nous avons constitué une équipe projet pour à la fois travailler sur le classement, sur le conditionnement des fonds, le récoltement des fonds, et enfin sur la valorisation, puisqu'à partir du moment où on commençait un gros travail scientifique de classement, on était persuadé d'aller au bout des choses et d'aller jusqu'à la valorisation. Dans un premier temps, valorisation simplement, j'allais dire, locale, c'est-à-dire présenter les fonds, les richesses, les plus beaux documents, les plus anecdotiques, etc. Donc on a mis en place un projet scientifique qui est parti de l'histoire du notariat Tarné à l'histoire du notariat dans le midi de la France, ce qui équivalait pour le XIIe, XIIIe, XIVe siècle à l'histoire du notariat français. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est passé de cette histoire purement tarnaise à une histoire française, voire internationale? Parce que en se penchant sur l'histoire du notariat pour rédiger une introduction, je vais vous présenter à quoi ressemble un inventaire d'archives. Donc ça, c'est notre site internet. Donc l'inventaire d'archives, je vais vous montrer le travail d'un ancien stagiaire. Bon, on va arrêter. Un inventaire d'archives, c'est assez... c'est pas très beau. C'est très utile, c'est souvent très compliqué à mettre en place, parce que là ça a l'air de rien parce que ça se suit chronologiquement, mais quand on rentre dans les archives notariales, on s'aperçoit sur le XVe siècle qu'on a des ordonnées qui ne sont pas exactement des minutes, donc ça ne suit pas par l'ordre chronologique. Enfin, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça ne devrait l'être. Et donc, si je repars en arrière... Il rame. Donc, on rédige une introduction historique. Trop loin, je suis allée trop loin. On rédige une introduction historique qui fait le point donc sur l'histoire de. Et en préparant cette introduction historique, on avait envie de présenter, par exemple, le plus ancien document notarié conservé en France. Le truc un peu bête, en disant, ben voilà, ça serait bien de présenter le plus ancien document notarié. Et alors là, problème, impossible de trouver dans la bibliographie le plus ancien document notarié. On variait, alors l'école de Montpellier, Maître Durand, 1139 Montpellier, mais peut-être Vintimille, 1096, peut-être beaucoup plus tardivement, etc. Bon, alors on y dit, on va chercher quel est le plus ancien. Et alors là, je suis rentrée dans un engrenage un peu fou, c'est de me lancer, moi qui suis seizièmiste, de me lancer dans l'histoire du notariat au XIIe siècle, donc commencer à accumuler de la bibliographie, commencer à aller chercher dans les fonds d'archives qu'est-ce qui pourrait bien être le plus ancien, je suis un peu têtue, le plus ancien document notarié. Alors, je vais vous montrer quelques documents. Donc là, on est en 1070. Donc la difficulté en fait des plus anciens, du notariat au XIIe siècle, l'apparition, c'est que on va trouver des actes qui ont été écrits par certaines personnes. Donc là, Petrus Abbas, Pierre Abbé d'Ardorel a écrit. Donc on a quelqu'un d'autre qui a souscrit et on n'a pas de nom de notaire. Parfois, on va l'avoir. Donc voilà. Donc ce qui est compliqué, qu'est-ce que c'est au XIIe siècle, qu'est-ce qu'on appelle un notaire? Est-ce que c'est juste la personne qui a écrit l'acte? Maître Durand a écrit l'acte à Montpellier en 1139. Est-ce que c'est parce qu'il y a le nom de notaire? Donc Maître Durand notaire. Est-ce que c'est vraiment un vrai notaire? Est-ce que on va prendre en compte l'apparition du notariat à partir du moment où on a un signe de validation supplémentaire, ce qu'on appelle le saint manuel du notaire, le petit gris-gris que met le notaire à la fin. Donc vous en avez un saint manuel dans le dépliant. Voilà. Donc c'était ça la problématique du XIIe siècle. Et à partir de cette idée de chercher le plus ancien document notarié en disant mais qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je présente, à qui je vais le demander, on est rentré dans cette problématique-là de recherche scientifique très poussée. Et puisqu'elles étaient poussées, puisqu'on avançait, on s'est dit, bon, on va aller jusqu'au bout, puisque c'est ça qui manifestement encore à travailler, puisque le notariat au 15e, au 16e, 17e, ils sont assez connus. On va nous faire notre travail d'archiviste et classer nos fonds depuis le 13e siècle, en l'occurrence chez nous, jusqu'au début du 20e siècle. Mais sur la valorisation, c'est l'exposition elle-même, on va se focaliser sur le XIIe et XIIIe siècle, qui est vraiment ce pourquoi on a commencé à travailler au niveau scientifique. Sachant que la difficulté, et je vais vous montrer quelques images, vous allez comprendre, c'est que ce propos scientifique qui est très séduisant pour un chercheur, et dans lequel j'avoue que je m'y suis prise au jeu en entraînant quelques-uns de mes collaborateurs et certains stagiaires qui sont passés par la maison, c'est très compliqué à faire passer au grand public, qui est quand même notre public premier. Vous comprenez bien, là, je vous montre le registre de Giovanni Scriva, qui est le premier registre notarié au monde, qui date des années 1150. Vous comprenez bien que présenter ça, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, il n'y a aucune différence entre notre registre de notaire que je vous montre. Vous n'êtes pas capable de le lire, ce n'est pas beau, esthétiquement parlant, ce n'est pas beau, c'est incompréhensible, et les notions, comme je vous l'ai montré, liées à l'apparition du notariat, sont très subtiles, liées à l'apparition du saint manuel, l'apparition de quelques termes juridiques techniques qui sont très compliqués à faire passer. Donc là, c'est un extrait, donc toujours de Giovanni Scriva. Donc voilà, je ne pense pas que même avec beaucoup d'efforts, vous me disiez que ça soit très beau. Ça, c'est le plus ancien registre notarié de France, qui est de Marseille, qui date de 1248. C'est pareil, c'est pas très beau. En plus, il est pas en super bon état. Elle n'est pas là, je peux le dire. Voilà, là, c'est ce que j'ai, moi, attribué comme étant le plus ancien document notarié, parce qu'à un moment donné, j'ai eu la force de chercher. Alors, j'en profite pour remercier tous mes confrères, notamment Jacqueline Hurche, qui nous ont accueillis dans les magasins. On a travaillé parfois accroupi dans les magasins, parfois dans un froid. Je vous défie d'aller travailler 2 heures d'affilée aux archives départementales du Vaucluse. C'est très beau le Palais des Papes, mais c'est insupportable au mois de février. Donc avec des doudounes, accroupis par terre, pour rechercher tous ces petits actes isolés. Parce que si vous voulez, les cartulaires médiévaux sont connus, mais tous ces petits actes isolés comme ça, c'est pas beau ça, c'est pareil. Mais c'est très intéressant parce que vous avez... Alors ça peut devenir beau, je vais vous l'expliquer, mais comme ça, ça... Enfin, pour les archivistes, c'est pas le plus haut. Donc ce qui est intéressant, par exemple, dans ce document-là, c'est que vous avez le monogramme du notaire qui s'appelle Raymondus Bodonus. Vous avez toute sa complétio, c'est-à-dire la façon dont il termine l'acte et qui va annoncer que non seulement il est notaire, mais en plus, il est notaire public et qu'il va valider l'acte. Vous avez... ce petit gris-gris là qui est son Saint-Manuel, et c'est le premier acte notarié avec Saint-Manuel, ça pour l'instant j'en suis sûre, à moins qu'on en trouve d'autres, mais il n'avait pas été forcément repéré comme tel, et la tâche d'un sceau ou d'une bulle, voilà. Donc tout ça c'est très intéressant, et alors ce qui est intéressant aussi, mais j'y reviendrai, c'est que cet acte-là est sous la forme des actes notariés, des expéditions notariales de Gênes, le développement du notariat, c'est Gênes au XIIe siècle. Donc là, c'est toujours la même chose. C'est des documents qui sont particulièrement intéressants. C'est un chirographe avec les lettres chirographiques de la partie supérieure. Le Saint-Manuel, c'est un tout petit peu plus tardif. Le Saint-Manuel du notaire qui se trouve ici, il se dit notaire. Il est mandaté par un certain Raoul, qui est avocat, donc qui est juriste et chancelier, et vous avez la bulle, on est à Arles. Voilà. Donc, c'est des documents qui sont intéressants, qui sont passionnants, mais que vous ne pouvez pas livrer tel quel au public, parce que c'est incompréhensible, le discours scientifique ne sera pas compréhensible, ou va nécessiter des tonnes d'écrits qu'il ne va pas forcément pouvoir comprendre. Alors, donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé entre ambition scientifique qui était forte et qui même a une grande ampleur, et vulgarisation, parce qu'il y a besoin de médiation, il y a besoin de vulgarisation. Alors, les contraintes que nous avions pour cette exposition-là, en dehors de... Donc je vous ai parlé de l'exposition, des contraintes purement scientifiques et liées aux documents, comment arriver à présenter un propos scientifique ambitieux à un public non connaisseur, comment faire apprécier et comprendre des documents illisibles et souvent peu esthétiques, et comment faire passer des notions juridiques qui sont parfois compliquées, d'autant plus que les archives sont d'abord une matière première. Les archives, elles n'ont pas une vocation à être exposé. Vous présentez un tableau du Caravage, même s'il n'y a pas de discours scientifique derrière, etc., ou même si les gens ne le lisent pas, ne font pas attention aux codes couleurs, etc., ils peuvent être touchés dans un sens, dans un autre. Pour reprendre votre exemple de touriste de Palavas-les-Flots, le touriste de Palavas-les-Flots en tongs et en short, il peut être ému par un Caravage, même s'il ne comprend rien autour, ou ému dans un sens ou dans un autre. Il n'aime pas. On est face à un tableau, on aime, on n'aime pas. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, ça nous touche, ça ne nous touche pas. Un document d'archives, c'est beaucoup plus compliqué. Quoique sur la partie médiévale, on arrive parfois à toucher plus facilement que sur un document provenant de la préfecture de 1960. Bon. Ça, c'est évident. Mais quand on expose des documents d'archives, le document d'archives, il n'a pas vocation première à être montré. L'exposition va contrarier sa nature, c'est-à-dire sa nature, donc Jacqueline en a parlé, la nature liée à la conservation. Un document d'archives, c'est 50 lux. Quand vous avez un rouleau qui est resté roulé pendant 800 ans, de vouloir le dérouler pour le montrer, c'est déjà très compliqué, parce qu'il se rétracte, des choses aussi bêtes que ça. C'est-à-dire, comment je fais tenir mon rouleau roulé, comment je suis obligée de déplier mon parchemin qui a été plié avec les traces, etc., qui en plus va être très sensible à l'hygrométrie, qui ne va pas être la même que pour le document papier à côté, etc. On va aussi contrarier sa finalité. Un document d'archives, on peut avoir une finalité qui reste de la sphère du privé. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un testament chez un notaire, même au XIIIe siècle, le testament n'a pas vocation à être divulgué. On reste dans la sphère du privé ou dans la sphère de l'utilitaire. Montrer des documents d'archives, des beaux à gazaille, par exemple, d'un passionnant, on contrarie la finalité du document. et on va contrarier aussi leur accessibilité au sens contemporain du terme. Donc on a vraiment besoin d'un médiateur. Et on a besoin. Alors, on sait très bien que le public ne goûte pas, ce qui incombe pour les archivistes, ne goûte pas l'écrit. C'est-à-dire que si on met des panneaux et des panneaux pour expliquer pourquoi on a mis ce document-là, ça ne passe pas. Et qu'on va l'assommer avec des panneaux didactiques absolument contre-productifs. Alors, pourtant, à notre grand étonnement, même ces documents pas beaux, et j'ai entendu certains disaient tout à l'heure quand je montrais... Mais si, c'est beau. À notre grand étonnement d'archivistes, les gens... sont sensibles à l'esthétique de ces documents-là. On l'a vu, par exemple, Gennaro, quand tu as fait l'exposition avec Mathieu, enfin mon mari, à la médiathèque d'Albi sur l'exposition sur les manuscrits enluminés de Jouffroy. Il y avait des manuscrits enluminés fabuleux, parmi les plus beaux manuscrits enluminés du XVe siècle. Or, la bibliothèque municipale d'Albi nous avait demandé de prêter une bulle, la bulle de nomination de Jouffroy à Albi. On a prêté notre bulle, qui n'a rien d'extraordinaire, une bulle absolument quelconque, bulle papale du XVe siècle. Et souvent, quand à la médiathèque, ils faisaient visiter l'exposition, on proposait aux gens de choisir deux documents. Choisissez deux documents, on vous les expliquera en priorité. Eh bien, au grand étonnement de tout le monde, les gens choisissaient un manuscrit enluminé et souvent demandaient à ce qu'on leur explique la bulle. Parce qu'ils trouvaient ça très beau, je pense que les gens ont souvent l'habitude de voir des manuscrits enluminés, et souvent des manuscrits enluminés très beaux parce que c'est très diffusé, et que les archives anciennes, encore une fois, notre grand étonnement, ils ont moins l'habitude et ils sont assez friands. Donc déjà, partant de ce constat-là, on s'était dit, ça c'est quelque chose d'intéressant. Il n'empêche qu'on avait des difficultés à monter cette exposition et ce programme. Alors, difficultés liées aux locaux. Nous avons une salle d'exposition qui ne fait que 120 mètres carrés, qui est coupée en deux par un mur. Alors, non pas un mur antique, mais un mur où Jaurès a peut-être posé la main, puisqu'il fait partie de la verrerie ouvrière. Et donc, il est sacré. Donc, si Saint-Jaurès est passé par là, on ne peut pas y toucher. Donc, ça nous coupe en biais l'être aux salles d'exposition, ce qui est assez compliqué. Et qui plus est, cette salle d'exposition est une verrière, parce que pour un architecte, une salle d'exposition doit être lumineuse. Donc ça veut dire que c'est des murs sur lesquels on ne peut rien accrocher. Donc même avec des stores et des... on n'arrive pas à faire totalement le noir. C'est assez compliqué. Donc nous avons ce problème-là. Nous avons aussi la localisation des archives départementales du Tarn, qui sont... excentrés, qui ne sont pas forcément à l'extérieur d'Albi, mais qui sont, qui sont à l'ancienne verrerie ouvrière d'Albi, donc sur la partie industrielle d'Albi. Donc là, il faut traverser le Tarn. Alors c'est déjà compliqué de faire venir le touriste de Palavas-les-Flots jusqu'au centre de Montpellier, mais le même touriste de Palavas-les-Flots qui se dit « Tiens, il ne fait pas beau aujourd'hui, je vais aller visiter, puisque c'est sur le guide touristique Albi, patrimoine mondial de l'humanité, et le musée Toulouse-Lautrec, et l'après-midi, je repars par le viaduc de Millau », lui faire traverser Albi pour aller aux archives départementales. C'est infaisable. Donc voilà, on a un handicap qui fait qu'on sait qu'on n'aura jamais énormément de touristes, enfin de touristes, même de visiteurs, parce qu'il faut prendre la voiture, il faut traverser le pont, etc. Alors, on a aussi un budget contraint, on a un petit service. Donc, le budget n'était pas énorme, avec la difficulté souvent que les élus ont tendance à dire « Oui, mais non, mais on ne va pas mettre un gros budget, mais vous demanderez au fur et à mesure si vous avez besoin, et c'est insupportable. » Parce qu'on n'a pas de visée à long terme pour pouvoir construire quelque chose. Difficulté liée aussi au budget, parce que quand, par exemple, un an et demi à l'avance, vous demandez aux institutions qui veulent vous prêter des documents de vous faire une estimation de la valeur d'assurance, et qu'on vous dit pour un manuscrit, c'est 35 000 euros, et qu'au final, quand vous recevez... 6 mois plus tard, donc on a changé d'exercice budgétaire, donc vous avez construit votre budget et qu'on vous dit « Ah ben non, mais tout compte fait, on a changé d'avis, c'est 85 000 euros. » On vous fait le coup une fois, deux fois, trois fois, vous avez votre budget qui explose. Ça, c'est insupportable. Donc voilà, je préfère qu'à la rigueur, on me dise « Je ne sais pas », plutôt qu'on me sorte 35 000 euros pour avoir 85 000 euros derrière, parce qu'en fait, tout compte fait, ça fait plus chic ou je ne sais trop quoi. Difficulté, donc budget contraint. Mes budgets où, en fait, j'ai quand même réussi à négocier à la fois des subventions et aussi du mécénat, puisque la Chambre régionale des notaires nous a acheté 500 catalogues pour les distribuer à tous les notaires en exercice ou ceux qui étaient à la retraite, ce qui nous a fait quand même une entrée de 12 000 euros, ce qui n'est pas sans rien pour un petit service comme le nôtre. Ce qui fait que, grosso modo, le catalogue ne nous a rien coûté entre les subventions et ça. Enfin, voilà. Et enfin, le calendrier, le tempo, ça c'était un peu compliqué à gérer parce que ça ne dépendait pas de nous. Et pour terminer sur les difficultés, difficultés de prêt, alors on en a parlé hier, les prêts sont souvent une question de confiance et de réseau. Or, quand on est un service pas très gros, c'est parfois compliqué d'obtenir des prêts de grosses institutions qui vont vous demander des choses que vous n'êtes pas capable de fournir ou qui sont disproportionnées par rapport à ce que vous êtes ou par rapport aux documents. Alors, c'est encore une fois, les confrères archivistes ont vraiment joué le jeu. Et je vais dire que les confrères aussi en bibliothèque ont aussi joué le jeu. Ça, c'est une question de réseau, de connaissances. Et je trouve pas ça très juste d'un certain côté, puisqu'on devrait avoir un argumentaire scientifique qui permet de dire oui, on vous prête parce que scientifiquement, vous avez raison de demander tel document, et non pas oui, on vous prête parce que je vous connais et que je sais que vous faites des trucs sympas. Donc voilà, ça c'est un petit peu... Alors je passerai sur le convoiement et les questions d'assurance, ceux qui s'intéressent, vous pourrez m'en parler. Problème de concurrence entre institutions. Ça, c'est aussi fatigant parce que quand nous avons monté notre exposition, donc nous sommes pris très en avance et nous avions un discours scientifique qui tenait la route. Il fallait, par exemple, absolument qu'on ait le premier registre notarié de Gênes parce que c'était la filiation directe avec le notariat qui s'installe à Arles et à Saint-Gilles-du-Gard dans les années 1170. Or, au dernier moment, les archives nationales, ce n'est pas leur faute, ont eu la commande d'une exposition sur le notariat parisien, et on leur a demandé de sortir des documents prestigieux, et donc ils ont demandé le plus ancien registre notarié de France et le plus ancien registre notarié du monde, ce qui n'avait pas un grand rapport avec leurs propos, qui, eux, lui, commençaient au XVIe siècle. Voilà, donc il a fallu négocier avec les institutions, de leur dire, certes, les archives nationales vous demandent ces documents-là, c'est en effet plus prestigieux pour vous que votre document aille aux archives nationales qu'aux archives départementales du Tarn, mais un, j'étais la première à l'avoir demandé. Et deux, surtout, le propos scientifique tient la route et ça, ça a fonctionné. Je veux dire que par rapport notamment à Gênes et à Marseille, le propos scientifique a été important. Donc, voilà, ça vaut le coup d'avoir un propos scientifique important. Alors, les solutions mises en place. Donc, nous avons décidé, pour pouvoir contrarier ce côté omniprésence de l'écrit, de scinder l'exposition en trois parties. Une première partie où il n'y avait que des panneaux didactiques, je vous le montrerai tout à l'heure, qui est en entrée. Les gens le lisent ou ne le lisent pas. Une troisième partie qui est... Alors, vous n'aimez pas les copies, je vais vous parler énormément de copies de facsimilés, je vais vous en montrer. Une troisième partie qui était destinée à montrer le contenu des notaires, qu'est-ce qu'on trouvait dans un registre notarial, et qui était qu'à partir de facsimilés. Donc, je vais vous en montrer. On est les rois des facsimilés. Et la partie centrale, qui était la partie des originaux, concentrée sur le 12e, qui allait en fait du 12e à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais pour différentes raisons, mais qui essentiellement était 12e, 13e siècle, consacrée aux originaux, que nous avons décidé de réifier. C'est-à-dire que nous avons fait des objets d'art, des objets porteurs d'esthétique et d'émotion. Nous allons essayer de créer des écrins. Alors, mes photos sont très mauvaises, parce qu'il y a des reflets partout, etc. Donc voilà, très peu de documents, très peu de panneaux explicatifs, très peu de cartels. Vous voyez, les cartels développés ne sont pas plus grands que ça. Des vitrines avec un éclairage, alors ça ne se voit pas là, mais vraiment on est à 50 lux, on a essayé de créer le noir le plus absolu, etc. Voilà, ce registre, par exemple, n'avait aucune raison d'être scientifique. C'était dans la seconde partie de l'exposition. Il n'était là que pour l'esthétisme et créer justement une émotion esthétique, rendre ces objets, ces documents qui ne sont pas très beaux, mais qui sont rares au point de vue intellectuel, en faire vraiment des objets d'art, presque des bijoux. Alors, là, pareil, la photo n'est pas très belle, mais vous voyez, on a essayé de faire le noir absolu, et encore, on n'a pas reçu la moquette à temps, donc on voulait faire le noir en bas. Le fameux Giovanni Scriba, qui était dans une vitrine, il rentrait tout seul, il n'y avait pas d'éclairage, alors ça ne se voit pas là, mais il n'y a pas d'éclairage dessus. Donc on a expliqué aux gens, on a fait un effort de, vraiment pour expliquer aux gens que oui, on n'y voit pas bien, mais parce que c'est un registre, le plus ancien registre notarié du monde. Donc il est très précieux, il est en très bon état d'ailleurs, mais il est précieux, il est fragile, etc. Voilà. Et aussi un choix de tonalité et de couleur qui faisait qu'on a voulu rendre quelque chose de très sobre, un jeu de rouge foncé et de gris, avec un système de cartel. Là, c'est la seconde partie que vous voyez. Tout ça, ce ne sont que des facsimilés. On voulait vraiment créer le contraste avec la partie centrale, faite d'originaux, de documents précieux, anciens, qui créaient l'histoire, on leur faisait la démonstration historique sur leurs yeux, avec ce côté-là. Je vous en ai amené des facsimilés. Donc, vous en verrez. On est facsimilés fait maison. Donc, vous voyez, vous en avez là. Voilà, si vous voulez. Voilà, vous pourrez venir les voir après. Donc voilà le reste de l'expo. Donc puisque nous c'est une rotonde, tout ça ce sont des facsimilés qui ont été accrochés. Alors le facsimilé, ça permet aux gens de s'approcher, de toucher timidement en disant mais vous punaisez les originaux au mur. Ça permet de leur expliquer, ou du moins qu'ils touchent, qu'ils voient, et de créer du volume dans quelque chose qui est plat, parce que sinon c'est plat, c'est pas très beau. Donc voilà l'effet que rend un facsimilé. Donc vous voyez, on recrée du volume, et ça on ne peut le faire qu'avec du facsimilé. Voilà, encore facsimilé du petit document que je vous ai montré tout à l'heure. Encore le même document qu'on a sorti, document qui était quand même présenté en vitrine. Alors pour la petite histoire, il y a un document qu'on n'a pas réussi à voir à temps, et on en avait fait un facsimilé, on l'a mis dans la vitrine. Et c'est devenu un jeu pour dire aux gens, il y a un facsimilé dans la vitrine, trouvez lequel, et généralement personne ne trouvait. Donc cette partie centrale qui était vraiment le cœur, vraiment presque comme le cœur nucléaire de notre exposition, les gens pouvaient la visiter telle qu'elle, mais il y avait un médiateur qui était là, alors là c'est Journée du patrimoine, donc là c'est moi en petite tenue, en tenue... 16e, puisque les journées du patrimoine, c'est toujours déguisé. Et j'en avais marre de porter des crinolines, parce que c'est absolument insupportable à porter à longueur de journée. Donc là, j'avais demandé à être en page. Avec des... bon. Voilà. Et donc, on a fait, bien entendu, je n'y reviendrai pas parce que je n'ai pas le temps, on a fait tout un accompagnement, etc. On n'a pas fait un catalogue d'expo. On a rendu à nos documents, dans la publication, on leur a rendu leur vocation première. C'est-à-dire que dans la publication, les documents qui avaient été réifiés pour l'exposition sont redevenus matériaux d'archives. Et donc, dans le catalogue, les documents sont présentés vraiment comme la source première, ce qui nous permet d'étayer la démonstration historique, qui était dans l'exposition, mais qui était beaucoup plus... ce qui fait que les gens soit ont adhéré au discours scientifique et ont suivi la démonstration, soit ont eu au moins l'impression de voir des beaux documents et d'avoir un moment privilégié avec des documents rares, des documents uniques, etc. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer. Parce qu'un ministre de la Culture dans un musée, c'est assez fréquent. Un ministre de la Culture dans un bâtiment d'archives, en dehors de l'inauguration ou de la première pierre, c'est assez rare. Alors elle ne venait pas exprès pour voir l'exposition, mais voilà, elle a vu le manuscrit de Jaurès. Alors ça a l'avantage, le ministre y vient, c'est que vous avez toutes les huiles de la région. Donc... le président du Conseil général, mais ça, c'est pas très rare, parce que vraiment, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a un soutien indéfectible de nos élus, et en particulier du président du Conseil général, qui est notre premier fan, qui vient... Enfin, voilà, on s'entend très bien. Donc ça, ce sont des élus. Le président de la région, il y avait le préfet de région, donc M. Lemoine, etc., le sénateur, enfin bref, on avait... Et ce qui est assez, assez rare, donc là, c'est le Giovanni Scriba. Et pour la fin, voilà... tous les grands personnages. Voilà. Donc, en bilan de cette exposition, nous n'avons pas eu un bilan chiffré exceptionnel, puisque, je vous l'ai dit, on n'a pas les capacités en termes de localisation, mais nous étions contents parce que nous avons à la fois réussi notre pari de vulgarisation. Les gens étaient ravis. On nous a acheté des catalogues en disant on a vu des belles choses, on s'est régalé l'œil. Et on a découvert un pan d'histoire de notre histoire méridionale. Vous savez, les méridionaux sont assez fiers. Et on sortait aussi du contraste. J'en ai un peu assez dans le Tarn d'entendre toujours la croisade contre les Albigeois, les méchants du Nord qui nous ont imposé tout. De montrer qu'en fait, le notariat, les notaires, quand vous allez voir votre notaire aujourd'hui, c'est l'héritier de Giovanni Scriba à Gênes et c'est l'héritier des notaires du Midi de la France. Donc ce pari-là, il a été réussi. Et le pari scientifique qui, moi, me stressait beaucoup, beaucoup, puisque je ne suis pas spécialiste du XIIe siècle, a été réussi aussi parce que quand on a fait le colloque avec l'école des chartes, on a eu des spécialistes qui sont venus du notariat, pour le coup, et qui ont été particulièrement émus et touchés de voir donc, le Giovanni Scriba et tous ces documents dans une pièce, toute l'histoire de l'apparition du notariat. Et là, vraiment, pour moi, c'était le pari réussi de dire même les spécialistes sont contents et sont touchés. Voilà. Donc, je vous remercie.